Donc, étant chrétiens, nous sommes davantage conscients que le monde ne s'en va pas à la dérive, simplement au gré du hasard, mais que Dieu contrôle les événements qui se passent. Mais c'est étonnant que parfois même les incroyants, même un athée pur et dur, tout à coup peut sortir une phrase du genre « il n'arrive rien pour rien ». Je sais qu'il y avait une raison pourquoi c'est arrivé. On sait de manière innée que les choses n'arrivent pas pour rien, qu'il y a une force qui contrôle, qui influence et qui peut intervenir dans nos vies, une force supérieure. Mais quand arrive un grand malheur, c'est là tout à coup qu'on est confronté à se poser la question « pourquoi? » Et on peut avoir tout à coup un profond sentiment d'injustice. Si vraiment il y a un être supérieur qui ordonne, qui permet les choses qui se passent, là, pourquoi il permet un grand malheur? Et parfois, on arrive difficilement à donner un sens au mal. Mais c'est un grand soulagement, nous, quand on est chrétien avec la révélation de Dieu, de comprendre davantage, malgré qu'il demeure beaucoup de mystères sur pourquoi tel ou tel événement arrive dans nos vies. Et au moment où du récit de l'Évangile de Luc, où nous sommes arrivés, Jésus est sur le point de vivre un grand malheur. Et il est dans le temple à Jérusalem, et il se dévoue entièrement à la tâche d'évangéliser, de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, il sert son Père céleste de tout son cœur, et finalement, il sert son peuple, même il annonce le salut. Il se dévoue pour eux, et pourtant, il va être bientôt trahi, arrêté, mis à mort comme un criminel. Une grande injustice. Est-ce qu'il peut y avoir une bonne raison à ce grand mal? Bon, vous connaissez sûrement la réponse. On va étudier ce passage ce matin. Lisons Luc 21, l'Évangile de Luc, donc le troisième livre dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Jésus qui nous est raconté par Luc, chapitre 21. Nous sommes rendus à la fin du chapitre 21, au verset 37. Nous allons lire jusqu'à une partie du chapitre 22. Donc, Luc 21, 37. Chapitre 21, verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit au mont dit des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas s'en alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Mais il accepta et il se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagé, c'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus. Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe et rendit grâce. Et il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Le service de Jésus est impressionnant, n'est-ce pas? Il accomplit fidèlement sa mission à chaque jour, alors qu'il sait qu'il est en train d'être trahi. Judas pense agir dans son dos, d'une manière sournoise, sans que personne ne le sache, mais Jésus le sait très bien. Il sait que les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, qu'ils conversent entre eux, qui se sont ligués contre lui et qu'ils veulent le faire mourir, même s'ils n'ont aucune bonne raison de le faire. Pourquoi ils craignent la foule, le peuple? C'est parce que s'ils arrêtent Jésus devant eux, ils n'ont aucune bonne raison à donner. Pourquoi accuser Jésus? De quoi? De quel méfait? Donc, ils sont vraiment méchants. Mais Jésus sait tout cela et pourtant, il continue à travailler. Il est là tôt le matin. À chaque jour, il va au temple. Et jusqu'au soir, où finalement, lorsque la nuit arrive, il retourne au Mont des Oliviers pour y passer la nuit. Il craint le peuple, les chefs religieux. C'est pour ça qu'il ne l'arrête pas. Et on comprend que le peuple, ce n'était pas seulement une centaine de personnes. Il y avait des milliers et des milliers de gens assemblés, puisque c'était la fête annuelle de la Pâque. Et on comprend même dans le livre des Actes qu'il y avait des Juifs qui étaient venus d'un peu partout, là, dans l'Empire romain, de toutes les provinces. Peut-être pas tous les Juifs, mais beaucoup étaient venus, comme en pèlerinage, pour venir fêter la Pâque, la fête des pains sans levain, ensemble, au temple. Donc, ils sont très nombreux. Mais eux, ils sont quand même d'une lâcheté exemplaire. Non seulement ils savent que Jésus est innocent, ils ne se posent même pas la question si leur intention est juste ou non. Ils veulent le faire mourir. Mais ils n'osent même pas le faire devant le peuple. Il cherche une manigance. C'est à ce moment-là où Satan entre dans Judas. Donc, le lien est vraiment clair entre les deux versets. Là. Parce que les chefs religieux cherchent un moyen de saisir de Jésus, de le mettre à mort, Satan entre dans le cœur de Judas pour le pousser à aller s'arranger avec eux, pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. Sûrement que Judas ne sait pas qu'il est poussé par Satan lorsqu'il fait cela. Il trahit son bon maître avec qui il a passé toutes ces années. Il a été témoin de Jésus, là, des miracles incroyables qu'il a fait, de sa bonté envers les gens malades, les gens qui souffraient, de sa toute-puissance aussi quand il a calmé la tempête, quand il a ressuscité des morts. Il a été témoin de tout cela. Il a vu comment Jésus est irréprochable, parfait, saint. Il a vu comment Jésus lui a témoigné de l'amour, même à lui, là. Jésus l'a choisi parmi les 12. Et pourtant, il le trahit. Et il va jusqu'à accepter de l'argent en échange de Jésus. Donc finalement, Jésus est vendu comme un vulgaire esclave, comme Joseph vendu par ses frères pour une poignée de pièces d'argent. Et les chefs religieux accueillent Judas comme un héros. Eux non plus ne savent pas qu'il est poussé par Satan pour accomplir cela. Et c'est comme si Judas arrive et il leur offre Jésus sur un plateau... La tête de Jésus sur un plateau d'argent. Ils sont tout heureux. Là. C'est comme si leur prière avait été entendue. Seulement, ce n'est pas Dieu qui le priait. Mais Satan est toujours prêt à aider ceux qui veulent faire le mal et qui cherchent une manière de se détourner, de corrompre, de faire du mal à Jésus, à s'en prendre à Jésus ou à son corps qui est l'Église. On va voir dans le livre des Actes que lorsque Jésus intervient et interpelle Paul, qui s'appelait Saul, il lui dit « Pourquoi tu me persécutes? » Donc, faire du mal aux chrétiens, aux disciples de Jésus, c'est faire du mal à Jésus. Et Satan est toujours disponible et disposé pour le faire. Il est très ingénieux au mal. Après avoir tenté Jésus, on l'a vu au chapitre 4 de l'Évangile de Luc, après l'avoir tenté dans le désert, sans succès, parce qu'il tentait de détourner Jésus de sa mission, finalement. Même si... Je crois que ce n'était pas à 100% clair dans l'esprit de Satan quelle était la mission de Jésus. Mais quoi qu'il en soit, il voulait pousser Satan à désobéir à Dieu, à ne pas se soumettre à sa volonté. Mais il a échoué. Mais on lit dans Luc 4, 13, « Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » On peut être sûr qu'il a saisi toutes les occasions possibles pendant le ministère de Jésus, jusqu'à cette occasion ultime, finalement, de le faire mourir. Pendant que Judas fait cela, Jésus continue à enseigner la foule, jusqu'à ce qu'arrive finalement le moment où il va y avoir la fête des pains sans levain, aussi appelée la Pâque. Et il faut un endroit pour que Jésus puisse se retirer à l'écart, pour pouvoir prendre un repas avec ses disciples. Ils vont pouvoir manger un agneau sacrifié. Donc, Jésus, finalement, a respecté toute la loi de l'Ancien Testament. Et il a célébré cette fête-là, la Pâque, qui n'est pas la même Pâque que nous fêtons, c'est la Pâque juive, instituée dans l'Ancien Testament, où un agneau devait être sacrifié. Et il envoie Pierre et Jean vers un lieu précis où ils vont pouvoir célébrer ce repas. Puis il décrit à l'avance, on comprend d'une manière prophétique ce qui va se passer. En entrant dans la ville, vous allez rencontrer un homme avec une cruche. Suivez-le, il va vous mener à la maison. Puis là, vous allez vous trouver devant le maître de la maison, vous allez lui dire, « Le maître, dis-nous où le maître va pouvoir célébrer la Pâque. » Puis là, comme par hasard, il va avoir une chambre haute disponible, il va vous dire, « Ça va être là. » Mais on se rend compte finalement que Dieu savait tout cela. Ben, je dis Dieu, Jésus, qui est Dieu? Mais ça nous rappelle, lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, quelques jours avant, il a dit à ses disciples, « Allez à tel endroit, vous allez pouvoir prendre un ânon qui n'a jamais été monté. » Vous aurez simplement à lui dire, le maître en a besoin. Encore une fois, Jésus montre que tout dans les moindres détails est planifié. Ce n'est pas au hasard là, que ça arrive. Et Dieu a planifié, le Saint-Esprit orchestre tous les événements pour que ça se passe comme c'est prévu. Et Jésus est parfaitement conscient de ces détails-là. Donc, il obéit au plan que Dieu a mis sur pied. Pourquoi est-ce qu'il a tenu cette place-là secrète jusqu'à ce moment-là? On ne sait pas. Probablement qu'il ne voulait pas que Judas le sache. Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait éviter que Judas le sache, mais même Judas va y participer finalement. Il va s'arrêter l'endroit idéal, alors qu'ils sont à l'écart en train de manger, d'envoyer les gardes pour se saisir de Jésus. Mais il ne l'a pas su. Ce n'était pas encore le moment. Et l'heure du repas arrive, il se met à table avec ses apôtres et il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Littéralement, c'est écrit, j'ai désiré avec désir. Vraiment, là, Jésus avait hâte. Il avait hâte de manger ce repas avec ses apôtres, avec ses amis, avant de souffrir. Jésus sait ce qui l'attend, là. Et ça, c'est une joie qu'il pouvait partager avec ses disciples avant la grande souffrance, avant sa mort. C'est le dernier bon temps qu'il peut prendre avec ses amis, avant sa passion. Et il dit que cette Pâque-là qu'il va fêter avec eux, il ne la prendra plus jusqu'à ce que, finalement, elle soit complètement accomplie. Donc, que tout ce qu'elle signifie, cette Pâque, soit complètement achevé lors de la venue du royaume de Dieu. Puis, il leur distribue une coupe aussi. Il leur dit de la boire et de saisir cette occasion parce que plus jamais il va la prendre avec eux physiquement jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Plus jamais il va prendre du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il y ait enfin le grand banquet dans le royaume de Dieu. Cette Pâque juive, vous vous souvenez, on a étudié le livre d'Exode, je ne me souviens plus quand, là, il y a quelques années, il y a 2 ans. Puis, c'est lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte et que Dieu a envoyé Moïse pour les secourir, c'est là que la Pâque a été instituée. Donc, ça faisait plusieurs siècles que les Juifs répétaient ce mémorial-là religieusement. Et ils avaient ajouté aussi d'autres traditions, mais qui étaient bonnes, comme chanter des psaumes, plusieurs étapes où on buvait la coupe, ce qui n'est pas mauvais. Aussi, ils avaient pris l'habitude qu'un des fils demandait au père de la maison, « Qu'est-ce que ce repas a de spécial? » Et là, le père pouvait expliquer. « Nous étions esclaves en Égypte, on souffrait et Dieu a entendu nos plaintes. Il nous a secourus. Il nous a délivrés par des grandes plaies dont il a frappé le peuple égyptien. Et d'ailleurs, après 9 grandes plaies, où le peuple égyptien a beaucoup souffert, mais le pharaon refusait toujours de les laisser partir. Vous vous en souvenez, hein? Il avait le cœur endurci. Et c'est là que Dieu a déclaré, « Je vais lui envoyer une dixième plaie, et celle-là, elle va être finale. » La mort de tous les premiers-nés. L'ange de la mort, l'ange destructeur, va passer de maison en maison, et chaque premier-né va mourir. Et c'est arrivé, même le fils du pharaon est mort. Et c'est là que finalement le pharaon a dit, « Partez. » Il les a même envoyés avec un coup de pied. Et Dieu a ordonné, à ce moment-là, lors de la dixième plaie, mais dans cette semaine-là qu'il a instituée, de célébrer la Pâque, qui est devenue la fête des pains sans levain. Et un agneau sans défaut devait être pris et il devait être gardé dans la maison pendant 5 jours. Puis il devait être sacrifié sans qu'aucun de ses os ne soit brisé. Il me semble que le parallèle est assez évident. Là. Ça fait, au moment où Jésus célèbre ce repas, ça fait 5 jours qu'il est à Jérusalem. C'est l'agneau de Dieu, finalement, qui est avec eux et qui va être sacrifié. Et aucun de ses os ne sera brisé. Lorsque la Pâque a été instituée, le sang de l'agneau devait être pris et on devait en mettre sur le cadre de la porte extérieure pour que quand l'ange de la mort passe, qu'il passe outre la maison. Ce qui a donné le mot Pâque. Et qu'il n'y ait pas de mort. Donc finalement, le sens, c'est que l'agneau était mort à la place du premier-né, qui aurait dû mourir. Puisque même les Hébreux n'étaient pas sans péché, et tout homme mérite finalement de mourir. Mais parce que l'agneau était sacrifié selon ce que Dieu avait ordonné, l'ange de la mort passait outre. Et tous les Hébreux ont bien fait cela, et il n'y a pas eu de mort, aucun mort parmi le peuple hébreu. Donc l'agneau était le substitut, le sacrifice de substitution. Et ensuite, la famille devait manger l'agneau avec du pain sans levain. Et je crois que c'est pour que ça devienne une tradition. Là. Ça fait partie du rite pour rappeler qu'ils devaient manger le repas à la hâte. Tu n'as pas le temps de faire gonfler le pain. Là. C'est du pain mangé à la hâte. D'ailleurs, ils devaient même, pour le dernier repas, porter leurs vêtements, là, qu'on est prêt à partir. Et ils devaient se souvenir de cela. Qu'ils sont sortis comme dans un état d'urgence. En suivant leur chef, comme un peu comme les chants qu'on a chantés tantôt avec Dieu à la tête de l'armée, là, puis l'armée sort. Et ils devaient le manger aussi avec des herbes amères, dont le goût amer rappelait l'amertume d'avoir été esclave en Égypte. Donc ça touche vraiment les sens et ça permettait même des siècles et des millénaires plus tard de se souvenir encore de ce temps douloureux où ils avaient été esclaves et d'apprécier la libération, la rédemption que Dieu avait permis. Au verset 19, Jésus a fait cela avec eux. Il a mangé l'agneau, il a donné une coupe, ils ont bu ensemble, ils ont pris des pains sans levain. Mais à partir du verset 19, on lit que Jésus finalement se sert de ce repas de la Pâque pour instituer un nouveau symbole. Donc le repas de la Pâque symbolisait finalement la libération de l'esclavage en Égypte. Et ça coïncidait avec l'établissement de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Mais il était maintenant temps de remplacer ce symbole-là, puisqu'une nouvelle alliance allait être conclue. Donc l'ancien symbole de l'agneau sacrifié devait être remplacé par un nouveau, puisque maintenant c'est Jésus, l'agneau sacrifié. Il n'a plus lieu d'en sacrifier de nouveau. C'est un sacrifice une fois pour toutes. Et en souvenir de ce sacrifice-là, Jésus a institué cette table du Seigneur qu'on va pouvoir célébrer tantôt, où les disciples de Jésus, de toutes les époques et partout sur la terre, mangent le pain pour se souvenir du corps de Jésus qui a été donné en sacrifice, qui a été meurtri. Même, on lit dans Ésaïe qu'il a été brisé. On ne doit pas le prendre au sens littéral, c'est une métaphore, parce qu'on sait qu'aucun de ses os n'a été brisé. Mais son corps a été comme brisé, flagellé et meurtri jusqu'à mourir. Et les disciples prennent aussi la coupe du fruit de la vigne. Je pense que c'est à la discrétion des assemblées de choisir si c'est du vin ou du jus de raisin. Mais c'est intéressant de voir que c'est écrit le fruit de la vigne. mais d'un rouge qui rappelle le sang versé. Le sang répandu pour vous, que Jésus dit. Là, c'est clair, il n'y a absolument rien dans le passage qui indique que le pain devient réellement le corps de Jésus ou que la coupe, le jus de raisin devient réellement son sang, qu'il y aurait comme une transsubstantiation. C'est ce qu'on enseigne dans certaines églises, mais c'est une erreur, je pense. D'ailleurs, ça fait pas de sens que Jésus leur dise que ce pain-là, c'est mon corps, alors qu'il est dans son corps, en chair et en os devant eux. Mais c'est un symbole. Comme l'agneau sacrifié symbolisait et rappelait tout ce qu'ils avaient vécu et qu'ils avaient été épargnés de la mort. Maintenant, ce symbole-là, du pain et de la coupe, nous rappelle le sacrifice de Jésus. Pourquoi Jésus devait mourir? Mais il devait mourir, lui aussi, comme un substitut, finalement, à notre place. Offert en sacrifice à la place des hommes qui ont péché. Et tous les hommes ont péché. Donc, finalement, son sacrifice est valable pour tous ceux qui veulent s'en prémunir, pour expier leurs fautes. C'est comme si Jésus a payé comme un criminel, mais réellement aux yeux de Dieu, comme s'il avait commis ses fautes, à la place de ceux qui les ont commis, en substitut. Et ça avait déjà été prophétisé dans Ésaïe 53, que vous connaissez bien. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Les péchés qui étaient à mon compte, là, puisque j'ai cru en Jésus, à la croix, lui, alors qu'il n'avait aucun péché, mes péchés ont été transférés sur son compte. Et lorsqu'il a payé à la croix, il a payé pour mes fautes. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Plus loin, on lit dans le même chapitre, « Il a plu à l'Éternel de le briser. » Donc, c'était sa volonté. Et c'était un bon plan. De le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. La volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera les regards. Il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. « Mon serviteur juste » justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Et s'il devait mourir, en même temps, c'était pour que tous ceux qui sont justifiés soient inclus dans une nouvelle alliance, un nouveau pacte, un nouveau contrat d'alliance entre Dieu et les hommes. On lit cela dans Hébreux 9. C'est pourquoi la première alliance, l'ancienne alliance, où la Pâque était symbolisée par le sacrifice d'un agneau, cette première alliance-là, elle-même, n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Il a fallu que du sang coule. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». C'est comme ça que la première alliance avait été conclue, par un sang répandu. Puis, il ajoute, l'auteur aux Hébreux, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, le sang de Jésus devait couler pour que tous les hommes puissent être en alliance avec Dieu et être pardonnés. En plus de cette différence énorme, que là, ce n'est pas seulement des animaux qui sont morts, mais c'est le Fils de Dieu lui-même. Donc, en plus de cette différence-là entre les deux alliances, il y a deux points majeurs, je pense, qu'on peut souligner la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Premièrement, on a vu que Moïse a lu tous les commandements avant que l'alliance soit conclue et que le sang soit répandu. La nouvelle alliance, finalement, ce n'est plus basé sur des lois écrites sur des tables de pierre, mais c'est une loi qui est écrite dans le cœur de ceux avec qui Dieu fait alliance. Et comment il fait cela? C'est par le Saint-Esprit qui nous envoie et qui nous rend capables d'obéir au commandement de Jésus, qui se résume à « Aimez-vous les uns les autres ». En faisant cela, on accomplit toute la volonté de Dieu. Mais c'est une grande différence, finalement. Une libération du devoir d'obéir à la loi de l'Ancien Testament, même si elle est bonne, et c'est toujours bon de la consulter pour en connaître tous les principes, connaître notre Dieu. Mais nous sommes sous la nouvelle alliance maintenant. Une autre grande différence, c'est qu'elle n'est pas réservée exclusive au peuple juif. Maintenant, il l'étend à tous les peuples. Ces deux choses-là avaient été prophétisées à plusieurs endroits. On lit dans Jérémie 31, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Puis dans Isaïe 42, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé. » Donc, il parle à son serviteur, qui est Jésus. « Je t'ai appelé pour la justice. Je te prends par la main. Je te protège. Je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être à la lumière de toutes les nations. » Donc, c'est pour cela que cette alliance-là est accompagnée de la mission d'évangéliser toutes les nations du monde. Ça va ensemble. Tous ceux qui sont dans cette alliance ont reçu cette mission. De la proclamer, d'être une lumière même dans le monde. Donc, on doit comprendre que cette nouvelle alliance-là remplace l'ancienne. L'ancienne n'a plus raison d'être. Elle est devenue la nouvelle alliance. Et dans un sens, elle se poursuit dans la nouvelle alliance. Mais elle est totalement renouvelée. Et cette nouvelle alliance-là est établie de manière permanente pour l'éternité. Et va même continuer à durer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Sa loi sera toujours écrite dans notre cœur. La différence dans le royaume de Dieu, c'est qu'on va la respecter d'une manière parfaite. Enfin, on va être libéré de tous nos mauvais penchants, de nos convoitises charnelles. Mais on va être parfaitement le peuple de Dieu pour l'éternité. Donc, finalement, la mort de Jésus, qui est un grand mal, Dieu la transforme. C'est pour ça qu'il a plu à Dieu de briser son Fils, parce que c'était pour produire du bien. Dieu le transforme en un grand bien. Même le plus grand bien dans toute l'histoire de l'humanité. Et Jésus déclare à ses apôtres, « Celui qui me livre est à cette table avec moi. » C'est quand même un grand mal, qu'est-ce qui se passe là. Il ne faut pas minimiser le mal en voyant le bien qui a été produit. Le mal qui a été fait était quand même grand. Et Jésus dit que celui qui me livre, donc celui qui va me trahir, me vendre, est à cette table avec moi. Donc, c'est un de mes proches qui me trahit. Jésus est trahi par un de ses proches, un de ses amis, un de ceux qui était censé être son frère, même. Ça devait être douloureux pour Jésus. Et je pense que quand il écrit « Malheur à celui qui me livre », ce n'est pas seulement une menace, une malédiction, mais c'est un cri du cœur aussi. C'est une grande tristesse, comme il a pleuré sur Jérusalem, qui allait le rejeter. Et c'est un accomplissement du psaume 41, entre autres. On dit « Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. Contre moi, ils méditent mon malheur. C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui. Le voyant couché, il ne se relèvera pas. » Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, celui-là même lève le talon contre moi. Mauricio, je vais te voler ton eau. Et Jésus déclare ensuite un fait qui est assez paradoxal, mais il dit le Fils de l'homme s'en va. Et s'en va, ça a vraiment le sens... quitte la vie, quitte ce monde, va mourir finalement. Le Fils de l'homme va mourir selon ce qui est déterminé, selon ce qui a été décrété, selon le plan. Mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. Donc le mal que Jésus va subir a été décrété par Dieu. Et on comprend même que c'est avant même la fondation du monde que Jésus a été désigné comme étant l'agneau qui allait être sacrifié pour l'humanité. Pourtant, celui qui le livre, Jésus déclare malheur à cet homme-là. Donc, celui qui commet ce crime est quand même coupable et est responsable du grand mal qu'il commet. Et c'est une vérité théologique qui est très importante dans toute la Bible, finalement. C'est Dieu qui décrète tous les événements, les bons comme les mauvais. Pourtant, ces créatures ne sont jamais moins responsable. Les créatures de Dieu demeurent toujours responsables des choix qu'elles font. Les hommes, les anges, même Satan. Chaque créature de Dieu est responsable du choix qu'il fait de faire le bien ou de faire le mal. Mais ça reste quelque chose de mystérieux quand même. Parce que ça n'avait pas d'autre choix que d'arriver comme Dieu l'avait décrété. Pourtant, Judas est pleinement coupable de l'avoir fait. On pourrait même dire, c'est peut-être pas de la faute de Judas, parce que c'est Satan qui est entré en lui. Il savait plus ce qu'il faisait. Là. Mais même cela, il est quand même coupable d'avoir laissé Satan le pousser, l'influencer. On pourrait même dire qu'il n'a pas résisté à Satan. Il n'a pas résisté au diable. Et c'est ce qu'il aurait dû faire. Alors qu'il avait le Fils de Dieu à côté de lui, comment il a pu se laisser prendre par le diable? Ça veut dire que son cœur était déjà mauvais. On lit dans 1 Pierre 5, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Mais comment résister à un être qu'on ne voit pas, qui est plus puissant que nous? On va penser qu'on est plus puissant que Satan. Comment résister au diable? Bien, Jacques le dit au chapitre 4, « Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » C'est comme ça, finalement, qu'on mène le combat. On l'a chanté tantôt, que Dieu nous exerce au combat et c'est lui qui nous revêt de son bouclier du salut. Mais c'est en revêtant les armes de Dieu qu'on peut résister au diable. Par nos propres forces, là, c'est sûr que le diable a pleinement liberté de nous contrôler. Mais c'était la faute ici de Judas. Il n'a pas résisté. Finalement, il n'a pas eu foi en Jésus. Finalement, sa faute, c'est l'incrédulité. Il n'a pas cru en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Malgré tous les miracles qu'il a vus, toutes les paroles de Jésus qui confirmaient qui il était, il n'a pas cru. Et Judas va payer de sa vie. Encore une fois, c'est étrange parce que Dieu va faire en sorte qu'il paye de sa vie en se suicidant. Mais c'est quand même la volonté de Dieu qui s'est passée. Et on comprend que non seulement il va subir, il a subi la mort physique, mais qu'il va subir aussi la mort éternelle, le châtiment éternel, pour avoir rejeté le Fils de Dieu, ne pas avoir cru en lui. Et en même temps que Judas commettait ce grand crime, c'est Satan qui commettait ce crime. Et il ne restera pas impuni. Il sera jeté en enfer pour l'éternité. Donc, c'est un grand mal que Jésus a subi. Il a été trahi, mis à mort. Mais c'était pour produire un grand bien. Et Dieu change le mal en bien. C'est pour ça qu'on peut dire avec confiance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos épreuves, même nos plus grandes souffrances, c'est pour notre bien. Même le jour où on va finalement mourir, c'est pour notre bien. Ça va même pour nous conduire à notre plus grand bien. Notre condition va être encore meilleure dans les bras de notre Sauveur. Et le grand bien qui a été produit avec la mort de Jésus, c'est de pouvoir permettre aux hommes, pécheurs, rebelles, d'être réconciliés avec le Créateur. Sa créature qui était coupée d'une relation intime avec le Créateur, maintenant, chaque croyant, tous ceux qui croient en Jésus, peuvent être réconciliés avec Dieu, avoir une relation intime avec le Créateur. Il n'y a pas de plus grand privilège. Et le Créateur leur accorde une vie éternelle. Plus de mort. Plus de souffrance. Dans Jean 3, on lit que Dieu a tant aimé le monde, sa création, sa créature, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. OK, qu'il n'aille pas en enfer. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Ce n'était pas pour juger la première venue de Jésus. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, finalement. Il est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, finalement, notre destinée éternelle se joue là, là. Ça ne dépend pas de si on a mené une bonne vie, si on a été un meilleur homme ou une meilleure femme que la moyenne. Ça dépend de notre foi en Jésus. Seulement, la vie éternelle à celui qui croit, mais malheur à celui qui ne croit pas. Et soyez sûrs que le diable se démène pour que personne ne croie. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher la parole de Dieu de se propager et empêcher les gens de se soumettre à Dieu, de lui résister, de sorte qu'il fuit. Crois-tu en Jésus? Amen.